Merci bah, d'être si nombreux et d'être restés après votre assemblée générale. Ça fait toujours plaisir pour un conférencier de voir qu'il y a du monde qui s'intéresse à son sujet. Est-ce qu'on laisse la lumière, si vous préférez un peu plus de contraste? Voilà. Donc le sujet que je vais aborder aujourd'hui concerne les matériaux de construction et de décoration de la cathédrale de Saint-Jean de Maurienne. Pour vous expliquer comment j'en suis arrivé là, c'est qu'il y a eu entre 2016 et 2018 un projet d'édition d'un gros volume sur les cathédrales de Savoie et de Haute-Savoie, bien entendu concernant aussi la cathédrale de Saint-Jean sur lequel j'avais travaillé. Et le sujet a été abandonné en 2018 parce que l'éditeur avait du mal à réunir les fonds pour publier ce gros volume. C'était le 18e ou 19e volume d'une série sur les cathédrales françaises. J'avais personnellement participé à deux d'entre eux pour Lyon, la cathédrale de Lyon et la basilique de Fourvière, qui, même si elle n'était pas cathédrale, présentait quand même un intérêt architectural qui était particulier, singulier et puis remarquable. Donc le projet a été abandonné. Le travail que je vais vous présenter sur Saint-Jean est une partie du travail que j'avais réalisé et qui aurait dû normalement être publié sur la partie construction et décoration de l'édifice uniquement. Plus quelques notes historiques, parce que souvent on n'a pas suffisamment de messages que l'on trouve sur les pierres en place, et il faut compléter aussi par le travail d'archives et puis de recherche documentaire pour arriver à avoir un document qui tienne la route. Donc les cathédrales, leur durée de construction, quelques généralités, ça peut durer jusqu'à 6 siècles. Densité, c'est une chose qui m'a marqué, c'est qu'on retrouve sur le territoire français plus de la moitié des cathédrales au sud d'une ligne qui partage la France en deux, avec une énorme concentration dans le sud. On parle bien de cathédrales, c'est-à-dire de sièges d'évêchés. On trouve aussi de grandes églises comme l'abbatiale de Cluny, comme Saint-Pierre de Rome, comme la Mayor à Marseille ou Fourvière, qui sont de très grandes églises, mais qui ne sont pas non plus forcément cathédrales. En France, on a 200 cathédrales, peut-être à une ou deux près, pour 107 diocèses. En Rhône-Alpes, enfin dans notre ancienne région Rhône-Alpes, 14 cathédrales au total. Lyon, appelée primatiale parce que l'archevêque de Lyon porte le titre de primat des Gaules. Chambéry, appelée la métropole car la cathédrale est le siège de l'archidiocèse. Les diocèses Chambéry, de Tarentaise et de Maurienne sont unis depuis 1966. Les co-cathédrales de Moutier et de Saint-Jean exercent en indivis la fonction de cathédrale avec celle de Chambéry. Et l'évêque de Tarentaise, donc en se retirant en 1961, s'est fait remplacer par Monseigneur Bontemps. En même temps, on profite de tout cela pour regrouper au sein d'un seul diocèse et unir les trois territoires de Savoie qui étaient jusque-là de mise. Une carte, donc, d'après Laurent Périlla, avec le diocèse de Haute-Savoie, Chambéry, qui correspond en gros à la région de Savoie propre, la vallée de Tarentaise avec Moutier et la vallée de Maurienne avec Saint-Jean. Donc quatre cathédrales sur le territoire qui nous intéresse et qui aurait dû être normalement l'objet de la publication. J'aime bien faire se succéder cette carte du découpage ecclésiastique et puis celle-ci qui correspond à la géologie des terrains que l'on trouve en Savoie parce qu'elle nous expose finalement les grandes lignes de ce que l'on va trouver comme matériaux utilisés pour la construction de ces cathédrales. Avec Annecy, des terrains où l'on trouve beaucoup de molasses et de calcaire urgonien qui ont servi. Chambéry, où on trouve aussi des calcaires et puis un peu de molasses. Et puis une caractéristique pour Moutier et Saint-Jean-de-Maurienne, c'est qu'on a relativement peu de matériaux de construction. Mais par contre, ils sont d'une qualité remarquable. Pour la Tarentaise, c'est principalement le marbre des étroits du Siet qui a été utilisé pour la construction de la cathédrale de Moutiers. Et en Maurienne, ce sont les gypses et albâtres de Maurienne qui ont été utilisés principalement pour la cathédrale Saint-Jean, avec du tuf et puis quelques autres matériaux que l'on va aborder et dérouler dans le sujet. Matériaux de construction, on parle de pierre de roche quand on est en roche massive, qu'il s'agit de véritables blocs qu'il faut extraire d'une carrière pour les tailler. Généralement, ce sont des calcaires durs. Ces calcaires durs, ils répondent à un besoin dans la construction. Au niveau du sol, on a souvent des remontées capillaires. Il faut donc un calcaire dur qui supporte bien ces remontées d'eau, c'est-à-dire qu'il n'y soit pas sensible. Et puis ensuite, on peut élever en hauteur, en élévation, avec des matériaux plus tendres, peut-être moins résistants, comme la molasse, comme des fois le tuf, tout en hauteur. Le système, c'est des calcaires durs, des matériaux en élévation un peu moins denses et puis aussi moins lourds. Quand on monte 1 mètre cube de roche dense de calcaire, 1 mètre cube fait à peu près 2,7 tonnes de densité, on monte 2,7 tonnes pour 1 mètre cube. Quand il s'agit de monter du tuf tout en haut d'une flèche, le tuf a une densité plus justement de 1 à 1,2 au mètre cube. Donc quand il faut élever 1 mètre cube de roche à 40 ou 50 mètres de haut, le tuf trouve toute sa raison d'être, parce que c'est un matériau peu dense et beaucoup plus léger, entre guillemets. Et puis on peut trouver aussi des matériaux d'origine alluvionnaire ou glaciaire, des blocs généralement informes qui vont très bien pour l'appareillage grossier des murs. Et souvent ces matériaux sont masqués par deux parements, un intérieur et un extérieur, qui peuvent avoir un aspect de surface poli quelquefois, ou semillé, ou bouchardé, ou simplement taillé. En décoration, on a besoin principalement de marbre, des calcaires. Pierres marbrières, faussement appelées marbre, peuvent être utilisées aussi parce qu'ils prennent un poli brillant les rapprochant du marbre. Monsieur le Président citait la brèche de Vimines sur laquelle j'ai eu l'occasion d'écrire. Ce n'est pas un marbre, mais c'est un calcaire marbrier qui prend un très beau poli et qui le rend unique et utile en décoration. On en a retrouvé d'ailleurs dans des fouilles, je crois, j'avais vu ça avec Monsieur Daunier, de l'église Notre-Dame, dans les sols, il y avait des petits morceaux de parements de brèche de Vimines polies. Et puis on trouve autre catégorie de matériaux qui étaient appelés marbre à l'époque, qui sont en réalité des albâtres, qui sont issus donc des terrains gypseux que l'on trouve en Maurienne. L'albâtre, c'est un matériau qui prend à la fois le poli, qui supporte très bien la taille et puis qui est souvent d'une blancheur exceptionnelle. Et pour la sculpture et pour la statuaire, on a affaire à ce... Pour la statuaire, c'est-à-dire en ronde-bosse principalement, on utilise aussi ces albâtres qui vont très bien. Et puis on trouve aussi des matériaux, c'est assez surprenant, mais qui viennent de plus loin pour la décoration de la cathédrale de Saint-Jean. On a besoin de lion chaud, Tuileaux pour fabriquer ce qui était appelé à l'époque le ciment romain. C'est de la chaux mélangée avec des tuileaux ou des argiles cuites qui permettent d'avoir des résistances supérieures à la chaux aérienne. Et puis dans le secteur de la Maurienne, on trouve aussi des enduits appelés greillats à base de gypse cuit, qui étaient utilisés aussi bien d'ailleurs en intérieur qu'en extérieur. Ce qui est intéressant aussi quand on s'intéresse aux matériaux, c'est de suivre les itinéraires des hommes qui les ont mis en œuvre, qu'ils soient d'ailleurs aussi bien architectes, maîtres d'œuvre ou simples maçons, et puis de comprendre la logique qu'ils avaient dans leur démarche vis-à-vis des constructeurs, vis-à-vis des sculpteurs, ces symboles de l'équerre et du compas ou du marteau têtu et de l'équerre sont souvent... On les retrouve sculptés dans des stalles, dans des dalles aussi utilisées au sol. Saint Thomas ici à Chambéry avec son équerre. On en retrouve ici un autre, je ne sais plus où d'ailleurs, j'ai oublié. Et on retrouve là la véritable clé qui permet d'ouvrir la cathédrale de Saint-Jean, reproduite très exactement sur les stalles de la même cathédrale. Ces auteurs, ces architectes, ces sculpteurs, alors on voit aussi bien des sculpteurs qui viennent du Val d'Aoste pour le gisant d'Augier-Morizet, les gisants, pardon, d'Augier-Morizet, j'y reviendrai, qu'un architecte chambérien qui va travailler à Aoste, qu'un tailleur de pierre, maître maçon genevois qui vient travailler à la cathédrale de Moutier, un menuisier, on va dire, suisse, qui vient travailler pour les stades de la cathédrale, un maître maçon originaire d'un pays à la limite entre Faucigny et Genevois qui vient travailler à la cathédrale de Genève et puis à l'église des Célestins d'Annecy, église des Célestins d'Annecy devenue depuis cathédrale d'Annecy. Et puis on voit deux siècles plus tard des Piémontais qui viennent faire des travaux aussi bien à Saint-Jean-de-Maurienne qu'à Saint-Pierre de Genève, en 1752, pour remettre à neuf, dans un style architectural plus contemporain de l'époque, les façades des cathédrales. Concernant Saint-Jean-de-Maurienne, les matériaux que l'on voit utiliser, je vous ai parlé d'albâtre, je vous ai parlé de tuf, que l'on voit utiliser en grande quantité pour le chevet, où il a d'ailleurs un bel usage décoratif, et puis il unit cette partie de la cathédrale au reste dans des tons qui sont agréables à regarder. On voit des blocs taillés qui peuvent être de calcaire bien souvent originaire du Pass du Roc, un peu plus haut, dans la vallée, et puis du remploi, comme ici c'est remploi carolingien, je crois, d'albâtre réutilisé dans les piliers de la cathédrale. Le principal, le plus spectaculaire, c'est cet usage de l'albâtre utilisé pour la sculpture dans la cathédrale. Voici une carotte brute d'albâtre, et puis voici un bloc taillé lors des symposiums de sculpture de Saint-Jean-de-Maurienne. On voit que c'est un matériau qui prend un poli brillant, qui a des cristaux qui scintillent, ce qui lui donne un aspect marmoréen, ce qui fait que très souvent, on compare l'albâtre de Maurienne au marbre de Paros en Grèce, qui est un marbre réputé justement pour avoir ces grosses paillettes scintillantes que l'on voit très bien mises en œuvre ici dans la lumière. Gypse et anhydrite. Alors, ces deux matériaux se retrouvent dans les mêmes terrains. Une différence chimique, le gypse, c'est du sulfate de calcium d'une dureté moindre que l'anhydrite. L'anhydrite, c'est aussi du sulfate de calcium, mais qui ne contient plus qu'une demi-particule d'eau, anhydre, qui n'a plus d'eau, enfin, ce qui est plus ou moins juste, en tout cas, une demi-particule d'eau, ce qui le rend beaucoup plus solide, et puis ce qui change aussi sa nature chimique. Carbonate de calcium, c'est le calcaire. Il se dissout à raison d'un dixième de gramme par litre d'eau. Le sulfate de calcium gypse se dissout à raison de 2 grammes, soit 20 fois plus, dans un litre d'eau. Et le chlorure de sodium, c'est le sel que vous connaissez bien, se dissout à raison de 360 grammes par litre d'eau. On voit donc que ces trois types de roches ont des comportements très différents vis-à-vis de l'humidité. Le sulfate de calcium sera sensible à l'eau, beaucoup plus qu'un calcaire. L'exemple du sel, c'est simplement parce que dans la série de ce qu'on appelle les évaporites, on trouve très souvent du sel et du sulfate de calcium. Le gypse, enfin, a cette caractéristique, quand il est sous des couches de sédiments dans le terrain relativement épaisses, qui le comprime, il devient anhydre, c'est-à-dire qu'il perd cette molécule et demie d'eau et, pardon, dans ce cas, diminue de volume. Il perd de la quantité et il diminue de volume. Si il se réhydrate, par contre, ce n'est plus pour regagner ses 20% de volume, mais pour en gagner 30%, ce qui fait qu'il y a un effet de masse dans le temps et de volume dans le même matériau, suivant la quantité d'eau qu'il reçoit, il va se rétracter ou se dilater, entre guillemets, c'est pas le terme vraiment le plus approprié, mais il est imagé pour permettre de comprendre facilement, et l'anhydrite peut se transformer dans une échelle de temps relativement courte, à l'échelle des temps géologiques, en gypse, et inversement, le gypse peut redevenir anhydre. Alors c'est intéressant quand on va regarder sur les gisements de gypse du secteur, parce qu'on voit très bien la différence entre le gypse blanc, tendre, qui se raye à l'ongle, et l'anhydrite qui, elle, est beaucoup plus dure, de couleur légèrement bleutée, et c'est cette anhydrite donc qui a tendance à s'expanser. On a abordé tout à l'heure une histoire de gypse et d'albâtre avec M. Daunier sur un autre gisement de gypse qui se trouve dans l'Isère, dans la vallée de la... On est dans la vallée de la Romanche, là-bas, sauf erreur, à Visil, où un passionné a fait des recherches sur le gisement de gypse et d'anhydrite qui était sur le territoire de la commune de Notre-Dame-de-Mézages, et où il a représenté à l'intérieur d'une bande dessinée qui relate ses aventures le cloître de l'église de Saint-Jean de Maurienne et ici le gisant de Morizet, des chapiteaux, le chevet, etc. Et surtout d'un personnage que vous connaissez bien, qui est Jean Prieur, qui lui a communiqué beaucoup de renseignements. Donc on peut dire, dans notre secteur sud-est de la France, deux gros bassins pour l'exploitation du gypse, en Isère, autour de Notre-Dame-de-Mézages-Visil, et puis ici, Saint-Jean-de-Maurienne, sachant que l'albâtre de Saint-Jean-de-Maurienne présente ce caractère unique, c'est qu'elle constitue avec le tuf les deux seuls matériaux disponibles abondamment sur le terrain, et la cathédrale de Saint-Jean, on peut dire que c'est une cathédrale qui a été bâtie avec 50% d'albâtre, ce qui est un caractère unique, d'ailleurs, sur toutes les cathédrales, au niveau de toutes les cathédrales françaises actuelles, c'est la seule, Saint-Jean-de-Maurienne, qui soit bâtie principalement en albâtre et aussi avec du tuf et d'autres matériaux. C'est ce qui en fait la caractéristique. Par contre, ce type de matériaux peut présenter des désordres. Alors, on les voit très bien dans les colonnes, dans les piliers du cloître. On voit ici une partie d'un bloc qui contient de l'anhydrite, alors que le reste, au-dessus et au-dessous, est en gypse. Et on arrive à avoir cet effet saisissant de léger basculement des piliers du cloître, ou de vrillage, quasiment pour celui-ci, qui est bombé dans les deux sens, sur le côté extérieur, et puis aussi latéralement, où il a la forme quasiment d'un S. Tout cela est dû tout simplement à la transformation sur une échelle de 500 années, ce qui n'est pas quand même négligeable, mais il est possible que le gypse se soit, qu'une partie du gypse se soit transformée en anhydrite, se soit donc ainsi dilatée, et puis ait provoqué ce type de désordre. Là, on voit très bien la gonfle que provoque le bloc d'anhydrite qui a enflé et qui arrive à déformer, c'est très caractéristique, le pilier. Voilà, ça c'est pour les aventures et les mésaventures d'un matériau naturel. On voit ici très bien la forme de torse qu'il a adoptée, ce qui n'empêche rien et ce qui n'ôte rien à la beauté du cloître. Là, j'aime particulièrement cette photo avec ces rosiers au milieu en été ou au printemps quand c'est particulièrement vert, ou le blanc du gypse de l'anhydrite tranche avec la couleur rouge des roses. Ce gypse, d'où venait-il principalement? Alors, il vient très très probablement de la rive droite de l'Arvent. J'en profite pour remercier Robert Durand qui m'a confié quelques photos, lui qui a souvent visité ces exploitations. Pardon?
Je disais, c'est le Mont-l'Évêque.
Sur le Mont-l'Évêque, voilà, ces carrières, donc là, sont sur le côté du Mont-l'Évêque, sur la rive droite. Sachant que les carrières que l'on voit actuellement exploitées en rive gauche sont appelées les carrières de Lacombe ou des Combes, de Lacombe, voilà, pour les différencier. Donc jusqu'au début du XXe siècle, les carrières du Mont-l'Évêque étaient exploitées pour y extraire le gypse nécessaire à la fabrication du plâtre, et c'est probablement à l'intérieur de ces carrières, dans des galeries souterraines, qu'ont été extraits tous les blocs qui ont servi à la construction de la cathédrale et puis à la sculpture et à la statuaire fine que l'on trouve à l'intérieur de celle-ci. Ces carrières souterraines, donc les voici photographiées au début du siècle, de grandes excavations, les personnages la permettent de donner l'échelle, et ces carrières portent le nom de mon évêque, parce qu'elles étaient la propriété de l'évêque ou des évêques de Maurienne. On voit d'ailleurs, on verra plus tard dans le détail, dans le testament de l'un d'eux, qu'il souhaite utiliser des blocs venant de ses carrières, etc., etc. Autre type de matériaux que l'on va voir pour certaines parties, plus décoratives, le petit bénitier qui est à la descente des marches qui permettent d'entrer dans la cathédrale est en calcaire légèrement rose. On va trouver aussi du calcaire du Pas de la Roque pour ce bénitier là sur le flanc droit de la cathédrale. Des bénitiers qui sont faits dans un calcaire gris annulite qui vient de la vallée de Maurienne. Et ici un marbre qui est peut-être extérieur. Grosso modo, ce marbre-là est très probablement du marbre noir appelé grand deuil parce qu'il est de teinte noire avec des parties blanches que l'on trouve en Maurienne. On trouve le calcaire du Bochet utilisé là pour ce bénitier. Saint-Jean donc est ici. Et en descendant dans la vallée, on voit très bien cette carrière à flanc de coteau avec un calcaire très caractéristique. On trouve du calcaire du Pas du Roc utilisé ici et puis aussi dans certains blocs taillés. Il est de teinte noire, c'est un calcaire plus ou moins siliceux qui tient bien à la taille, qui est peut-être un peu plus lointain à faire venir que le gypse ou l'anhydrite que l'on trouve sur place. Et puis il y a des petits gisements de tuf ici, juste en face donc des carrières du Mont-l'Évêque, qui ont pu être celles utilisées pour le chevet. Un matériau plus lointain, anachronique, qui date du 19e siècle, qui a été utilisé par un des frères Cacciatori pour le monument d'Humbert II, c'est du calcaire de Seyssel. Seyssel, c'est le long du Rhône, au-dessus du barrage actuel de Génicia, des carrières qui sont ouvertes sur chaque crive du fleuve, dans d'immenses carrières souterraines qui fournissent un calcaire blanc qui prend très bien la taille et qui a été utilisé depuis l'Antiquité gallo-romaine pour la construction de Genève, Lyon, Vienne, aussi à Chambéry, Aix-les-Bains pour certaines parties sculptées. C'est ce type de calcaire qui a été utilisé ici pour le gros de la sculpture du monument du tombeau de Humbert II. Pourquoi trouve-t-on ce calcaire ici à Saint-Jean-de-Maurienne, mis en œuvre par les Cacciatori? Parce que ce sont eux, ces sculpteurs, qui au XIXe siècle ont restauré l'abbaye d'Hautecombe entièrement faite dans ce calcaire de Seyssel. Donc on peut facilement imaginer que c'est un matériau qu'ils connaissaient bien, et quand il s'est agi de l'utiliser à Saint-Jean, ils ont pris le même type de matériau. Par contre, il supporte très mal, on le voit bien ici, on est dans une vallée alpine, on a de la neige, on a du verglas, on sale les routes très souvent, et les agressions subies par ce monument en bordure de la route qui passe devant la cathédrale ont très probablement envoyé du sel ou touché en tout cas suffisamment le sol pour pouvoir désagréger le calcaire, et c'est ce qui explique la mauvaise tenue de la base du monument réalisé donc dans ce calcaire des carrières de Seyssel. Autre œuvre remarquable à l'entrée sous le porche de la cathédrale pour le tombeau de Humbert, une œuvre réalisée par des sculpteurs de Turin, les frères Collini, qui ont réalisé ce magnifique panneau dans un matériau qui vient de la région de Cuneo. Donc c'est un des rares d'ailleurs exemples d'utilisation d'un matériau venant de l'autre versant des Alpes sur le versant de nos Alpes, ici côté Savoie. Ce marbre a traversé les Alpes pour être mis en place ici à Saint-Jean-de-Maurienne. Itinéraire de quelques évêques. Alors, je ne vais pas vous développer la totalité de la liste de tous les évêques qui ont fréquenté la cathédrale, mais en tout cas ceux desquels on trouve facilement une image ou leur trace dans la cathédrale. Savin de Florent, avec ici ses armes et sa crosse d'évêque et ses armes à l'intérieur de la cathédrale. Amédée de Montmailleur dans la petite chapelle d'hiver à gauche du chœur, donc où l'on trouve son aigle impérial ici sculpté aussi avec sa crosse épiscopale. Le cardinal de Stouteville, ici, aussi a porté ses armes. Alors, je ne me souviens plus où elles sont. J'ai pris la photo, mais je pense qu'elles sont dans les hauteurs, à la base des voûtes, quelque part plutôt dans le chœur ou dans le... Enfin, je ne sais plus. Il y en a tellement, on en voit de partout. C'est aussi ce qu'il y a de magnifique dans la cathédrale de Saint-Jean. C'est, je crois, une des cathédrales que j'ai visitées où l'on voit quasiment toutes les armes des évêques qui les ont fréquentés et qui ont modifié aussi l'architecture de la cathédrale dans le temps. Étienne de Morel, un abbé d'Ambronay, on trouve ses stalles dans la pierre et aussi, on retrouve ses armes aussi bien dans la pierre que sur les stalles, gravées, sculptées sur bois. 11 fois. C'est le plus modeste, oui, parce qu'il y en a d'autres qui s'y sont fait représenter. De manière beaucoup plus nombreuse. Un de ceux que je préfère, c'est Ogier Morizet, avec ses armes portant trois trèfles, que l'on retrouve dans le grand panneau au-dessus de son gisant. Ici, portées par un ange, elles sont aussi très belles, bien que très probablement d'ailleurs, l'enfeu et le gisant ne soient pas à la place qui était celle à l'origine. Je crois qu'il a été déplacé, pour autant que je m'en souvienne. Cet évêque est présent au concile de Bâle, année de l'élection d'Amédée VIII, devenu donc le pape Félix V ensuite. Il est présent là-bas à Bâle lors de cet événement. Il a été aussi évêque d'Aoste. À Aoste, il avait fait bâtir une première chapelle dans la cathédrale avec un premier gisant, où il est aussi fabriqué en albâtre, mais de l'albâtre du Val d'Aoste. Alors là, on le verra, c'est dans un des premiers postes qu'il a obtenu. Il est donc très jeune. On voit son visage alors qu'il a une trentaine d'années. Le visage du gisant que l'on voit à Saint-Jean, il est beaucoup plus âgé, avec des rides, avec un nez plus cassé. On voit qu'il a beaucoup vécu. Donc il s'est fait représenter ici, à Saint-Jean-de-Maurienne, une vingtaine d'années plus tard, pour mourir finalement à Bâle en 1443, où il a été très probablement inhumé, et sous une dalle qui là est dans le matériau typique que l'on retrouve en Suisse, du grès rose de la région de Bâle. Donc cet insigne évêque a été représenté 3 fois dans la pierre. Trop de prévoyance finalement tue la prévoyance et l'imprévu. Ce fut qu'il est décédé lors du concile et qu'il a été enterré là-bas. Et que les deux gisants qu'il représente représentent son effigie, mais le corps n'est pas conservé sur place. Son visage jeune à Aoste, son visage plus vieux à Saint-Jean-de-Maurienne. Une anecdote, dans l'enfeu où est placé son gisant, tout au sommet, se trouve un Dieu le Père et puis un petit personnage que l'on voit ici sans tête. On voit le corps de ce qui semble être un singe, ou j'ai entendu aussi un démon, auquel il manque la tête. Et j'ai retrouvé aux archives départementales à Chambéry un courrier de 1996 d'un monsieur qui s'appelle Yves Michelin, qu'il a expédié à Jean Prieur. Donc, votre historien ici, il serait, cette personne, dans le sens donné par le courrier, l'arrière-petit-fils de Saturnin Truchet. Bon, ça, c'est sous toute réserve. C'est ça ? Bon, tant mieux que vous confirmiez le tout. Et il raconte, il relate par écrit, une anecdote assez singulière concernant ce petit singe ici à Jean Prieur. Donc, ce petit singe, alors que l'évêque était malade, souffrait d'un abcès à la bouche suite à des maux probablement dedans, était alité, et tous ses serviteurs pensaient qu'il allait très probablement, rapidement mourir. Et le petit singe, qui était son animal familier, était dans la chambre, l'évêque, on peut l'imaginer, dans le lit, et puis le petit singe, il va coiffer la mitre de l'évêque, comme ça, il se regarde dans une glace, il rigole, il prend les mêmes attitudes que son maître, et puis au bout d'un moment... Ogier Morizet, qui était toujours conscient, regarde ce petit singe et finit par éclater de rire de le voir si bien le mimer, si bien le singer. Et on dit, c'est du moins ce que raconte cette anecdote, que là, son abcès se crève, permet d'évacuer les purulences, et c'est ce qui a sauvé l'évêque. L'imitation que faisait de lui son petit singe. Anecdote, mais que je trouve assez sympathique, parce qu'elle nous donne une explication qui est tout à fait plausible et puis racontable avec une pointe d'humour. Et finalement, il a été sauvé par cet animal quasiment domestique, et puis a vécu encore quelques années, suffisamment pour terminer sa fonction épiscopale. Voilà l'anecdote dans le détail. Je ne sais pas si vous connaissiez cette archive, mais je vous la ferai parvenir parce qu'elle est assez rigolote.
C'est intéressant maintenant, s'il vous plaît. D'un point de vue plutôt historique, c'est plutôt le diable qui est présenté en haut. Vous avez deux anges qui tiennent le blason de l'évêque et le diable. C'est la lutte du bien et du mal. Et on peut comparer ça avec la chapelle voisine où vous avez le tombeau des Montmailleurs. Vous avez également le diable, voilà, mais en haut. Voilà, ce sont deux serpents qui mordent la robe des anges qui portent le blason. Donc on est plus, à mon avis, du côté de... Voilà, enfin...
C'est une variante.
Mais c'est moins drôle, voilà.
Comme vous dites, la lutte du bien et du mal est quand même beaucoup moins rigolote que la version, disons, voilà, qui nous en est rapportée. Ah, c'est peut-être un indice de plus, effectivement. Ben, il n'y a pas une expression qui dit d'ailleurs menteur comme un... Ah, c'est vrai. Ça, c'est à charge, plus qu'à décharge.
Ce que je regrette, c'est que vous ayez attendu que je sois en retraite pour me donner un moyen de guérir les abcès.
Je ne sais pas si la recette vaut toujours. Voilà. Parmi ces évêques, un autre que j'aime bien, c'est le cardinal de Morvaux, qui était aussi abbé d'Ambronay, qui est originaire de la Bresse, et qui a terminé sa carrière en étant donc évêque de Maurienne. On retrouve ses armes partout dans la chapelle, la première chapelle à gauche donc de l'entrée, une chapelle qu'il a fait ériger et dans laquelle il est sépulturé, ou soit en 1535, soit en 1538, sous une très belle dalle aussi d'anhydrite et de gypse local. On voit d'ailleurs très bien sur cette grande dalle qui fait 3 à 4 mètres carrés, une diagonale qui est en anhydrite, qui tranche donc au milieu des deux autres parties en gypse, et on voit une différence de couleur et de dureté. Les parties gypseuses se sont creusées sous l'effet du passage, alors que la partie centrale diagonale en anhydrite est restée en saillie parce que moins sensible à l'érosion. Un autre évêque, alors qui est le principal, sur lequel je vais développer un petit peu plus, qui s'appelle Pierre Lambert. Pierre Lambert le Jeune. Il est issu d'une famille très probablement d'origine chambérienne. Voici leurs armes dans l'armorial de Foras. Une croix avec rayonnée aux angles, de couleur bleue, une croix dorée. On a la définition d'argent, opale, d'azur, chargée d'une croix d'or rayonnante de même. Ces armes sont celles donc de la famille Lambert. On les retrouve sur le monument funéraire de l'abbé Pierre Lambert dans la cathédrale Saint-Jean. On les retrouve de multiples fois aussi dans différents monuments remarquables de la Savoie. La cathédrale devenue cathédrale d'Annecy, l'église actuelle Saint-Maurice, ancienne église des Dominicains d'Annecy. On les retrouve aussi à Léming, dans l'église où elles ont été représentées à différentes reprises. Cette famille, donc originaire de Chambéry, est une très vieille famille savoyarde qui a donné, dans les années, fin du XVIe siècle, entre 1530 et 1591 pour les dates extrêmes, trois frères qui furent évêques successivement de Caserte, le bâtisseur de l'église Saint-François d'Annecy, Pierre le Jeune, qui se trouve donc enterré ici dans la cathédrale Saint-Jean, et le troisième, François, qui a été évêque de Nice, et dont on retrouve aussi les armes à de nombreuses reprises dans la cathédrale Saint-Réparate. Cette famille, leur origine est toujours liée à la Chambre des comptes des ducs à Chambéry, où sur trois ou quatre générations, ils ont été soit président, soit claveur, c'est-à-dire porteur des clés, trésorier, etc., archiviste, ou alors simple membre de la Chambre des comptes. Depuis le 15e siècle, on va dire, fin du 14e, début 15e, il y a toujours eu un Lambert qui siégeait à la Chambre des comptes de Savoie, ce qui a fini par leur donner une certaine aisance financière, la confiance des princes qui régnaient à l'époque, et puis surtout une certaine fortune qui leur a permis d'acquérir beaucoup de seigneuries autour de Chambéry, et puis surtout d'acquérir un fief noble, la seigneurie de la Croix, ce après quoi ils sont devenus les Lambert de la Croix, famille noble. Jusque-là, on les appelait simplement Lambert, Pierre Lambert, etc. Ils sont devenus Lambert, seigneur de la Croix. Et voici donc les bâtiments de la Chambre des Comptes dans le château de Chambéry. L'intérieur qui est utilisé par un espace muséographique. Donc là, sur environ 150 ans, il y a eu 4 à 5 générations de Lambert qui tenaient les comptes à la Chambre des Comptes à Chambéry. Un des plus anciens, un nommé Jacques Lambert. Jacques Lambert avait épousé une dame, Hugonne de la Ravoire, qui était une très très proche de la... Était-elle duchesse déjà ? Oui, Yolande de France, de la duchesse Yolande, sœur du roi Louis XI. Et je pense qu'ayant cet accès, cette proximité auprès de la duchesse, Jacques Lambert a notifié dans un document tous les faits et gestes de la duchesse, donc durant son règne, où elle fut d'ailleurs régente, et c'est Menabrea qui a publié, retrouvant ce document chez un descendant de la famille Lambert, qui a publié les chroniques de Yolande de France. Donc un des premiers membres remarquables a été historien de la Savoie au Moyen-Âge, principalement de la duchesse Yolande. Ensuite, il a un frère qui est le premier des doyens de la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle, il y a aussi un lien particulier de cette famille Lambert avec la Sainte-Chapelle, parce que autant il y a eu de Lambert qui ont été à la Chambre des Comptes, il y en a eu autant qui ont siégé à la Sainte-Chapelle en étant doyen, enfin toujours en ayant un titre assez prestigieux. Il était donc le frère de Jacques, cette personne. Un autre personnage qui en est probablement le fils de Jacques, c'est Philibert Lambert, receveur général à la Chambre des Comptes. Allez, on continue. Qui épouse une demoiselle Loptier, originaire, je crois, de Moutier en Tarentaise. Ce Philibert, outre son titre de receveur général, a une place toute particulière dans l'histoire chambérienne et savoyarde. Lors de l'incendie, le 4 décembre 1532, dans la Sainte-Chapelle, incendie qui s'est propagé dans le chœur, qui a fait fondre la fameuse châsse d'argent offerte par Marguerite d'Autriche dans lequel était contenu le Saint-Suaire, Philibert, s'apercevant de l'incendie, est allé chercher deux serruriers, un bon père franciscain qui était à l'église des franciscains, l'actuelle cathédrale de Chambéry, et ils ont rompu les fers, sauvé le Saint-Suaire des flammes, et c'est à cet épisode que l'on doit les coutures que l'on retrouve aux angles du Saint-Suaire, qui avaient brûlé en partie, du moins été combustionnées, pour dire, par l'argent fondu dessus. C'est de cet épisode de 1532 où un membre de la famille Lambert est allé sauver le Saint-Suaire des flammes. Donc ce qui probablement rejaillit, cette aura a rejailli sur toute la famille et sur tous ses descendants. Vous reconnaissez ici le château, la Sainte-Chapelle se trouve là. En face, au bout de cette petite rue, sur la place actuelle Henri Murger, se trouve l'hôtel particulier de la famille des Lambert. Ils étaient donc à proximité du centre du pouvoir, à proximité du centre religieux de Chambéry que représentait la Sainte-Chapelle, ce qui explique qu'ils habitaient juste à côté, ce qui était pratique et puis ce qui a permis de sauver effectivement le Saint-Suaire. Un des plus connus frères de Philibert, c'est Pierre de Lambert, président de la Chambre des comptes. Alors, c'est lui qui acquiert la seigneurie de la Croix. Ils deviennent donc Lambert, seigneur de la Croix. Et puis, qui fait bâtir aussi l'hôtel chambérien, que je vous présenterai après. Mais c'est surtout le deuxième historien de la famille qui a laissé un écrit, un document qui s'appelle « Mémoire sur la vie de Charles, duc de Savoie de Vienne », donc le duc Charles le Bon, duc de Savoie de 1536 à 1559, et laisse donc cette relation historique, mémoire sur la vie de Charles, etc., de l'an 1536 à 1559, par Messire Pierre de Lambert, seigneur de la Croix, président des comtes de Savoie. C'est un document qui a été publié en 1840, je crois, par l'Italien Promis, et qui nous raconte sur une trentaine d'années tous les épisodes historiques qui se sont passés en Savoie sous la fin du ducanat de Charles le Bon. Voilà une photo de ce premier document réécrit et publié par Promis, les armes de la famille Lambert, ici leur hôtel chambérien, l'entrée dans la cour de leur hôtel. Il y a de magnifiques arcades qui couvrent les entrées et qui bordent ce bâtiment. Ici, la porte d'entrée principale avec une cage d'escalier, un escalier en vis qui permet d'accéder aux étages. On retrouve les armes de la famille de Lambert au sommet, au centre du linteau, pardon, au-dessus de la porte, où elles ont été quelque peu mutilées, mais on reconnaît bien le dessin. Une plaque patrimoniale mise en place par les amis du vieux Chambéry sur l'hôtel Lambert de la Croix. Cette croix, d'ailleurs, on la retrouve ici. C'est ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'à l'entrée, à l'angle du porche, ils ont fait figurer cette croix, ici, par deux fois, un peu comme une carte de visite ou comme une enseigne sur le bâtiment. On trouve aussi ici une mystérieuse coquille. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'hésite toujours à rattacher toujours cela systématiquement, une coquille, au chemin des pèlerins de Saint-Jacques, etc. Là, j'y verrais peut-être une allusion au fameux Jacques Lambert, le grand-père de Pierre, qui s'appelait Jacques, donc ce premier historien de la Savoie qui a écrit toutes les chroniques concernant Yolande de France. Mais là, encore, c'est une supposition, parce que tout n'est pas encore connu et écrit sur cette famille. Voilà donc pour clore avec ce Pierre Lambert. Donc, il était l'oncle de Pierre Lambert l'aîné, le premier, Pierre Lambert le jeune, et de François Lambert. Il y a eu d'autres enfants, c'était une fratrie, je crois, de 9 personnes au total, dont ces trois-là furent évêques, avec un décalage d'âge certains entre Pierre l'aîné, c'est ainsi qu'il est appelé, et Pierre le jeune, qui me fait dire que ce premier enfant, ce premier fils, est probablement issu d'un premier mariage de Philibert Lambert avant qu'il épouse Philippine Loctier. Là, même Amédée de Foras n'explique pas ce décalage-là. Les historiens peuvent aussi broder. Je pense que cette explication qu'il est l'enfant d'un premier lit me semble correcte. Ensuite, Philibert, se remariant plus tard, eut de nouveau un fils qu'il appela Pierre, mais le jeune. Ce Pierre le jeune, donc notre évêque de Saint-Jean, le premier, l'évêque de Caserte, c'est lui qui fait bâtir l'église Saint-François d'Assise d'Annecy, qui devient la cathédrale. On trouve cette dédicace ici, avec la date de 1535. La traduction, voilà, c'est un don de la famille Lambert qui dédie ce sanctuaire à la croix du Sauveur et à Saint-François d'Assise. en 1535. Cette cathédrale a été faite par un tailleur, un maître maçon d'origine du Genevois, non pas Genevois, mais du Genevois, qui avait déjà, dans un premier temps, commis la belle rosace de la tour neuve de la cathédrale Saint-Pierre à Genève, qu'il a reproduit ici très exactement sur le bâtiment voulu par le Lambert annécien. On voit ici les armes des Lambert sur le sommet du fronton de l'actuelle cathédrale, et on va retrouver aussi ces armes dans l'église des Dominicains d'Annecy, l'actuelle église Saint-Maurice, où ils ont une chapelle dédiée, où l'on retrouve leurs armes portées. Dans la cathédrale d'Annecy, alors là, c'est un record, j'ai noté 36 fois leurs armes reproduites, ce qui est quand même pas mal, on savait faire parler de soi. Le Pierre Lambert qui nous intéresse, le jeune, c'est le fondateur du lycée Lambertin, le portail ici remployé dans le... Comment on appelle, s'appelle le bâtiment ? C'est la maison diocésienne, voilà. On retrouve ce portail avec au sommet des armes aussi des Lambert, plus une dédicace ici, un très beau portail Renaissance. Et puis là, on arrive dans le Saint des Saints, c'est le monument que j'apprécie le plus dans la cathédrale, c'est le monument de Pierre Lambert, donc qu'il a fait lui-même sculpter et bâtir sur ses propres deniers, qui est un monument très peu connu. Alors tous les historiens de Saint-Jean le traitent de monument païen, parce qu'on y trouve, principalement des détails, des atlantes qui... Et puis ils disent carrément qu'il y a que la présence du... Alors je ne sais pas si c'est un bon pasteur ou Saint-Jean-Baptiste que l'on voit figurer en haut, ils disent que c'est le seul élément qui ne soit pas païen dans tout ce beau monument. On voit d'abord les armes de Lambert représentées au moins par deux fois, ici, sur un ruban, et puis là au centre, et puis la base du monument, le stylobate supporté par deux atlantes. Cet évêque, donc Lambert, a fait bâtir son beau monument qui est représenté dans la vue intérieure de Nice et Savoie de la cathédrale de Saint-Jean de Maurienne, où on le voit ici. On voit très précisément les deux atlantes, et puis on se rend compte, c'est ce qu'il y a de précieux dans cette gravure, que tout le monument était entouré par un catafalque qui devait très probablement ressembler à celui que l'on voit qui est toujours en place ici autour du ciborium. Donc il a disparu à une époque de restauration, mais le monument, lui, demeure. Alors c'est un monument qui, évidemment, est tout en albâtre de Maurienne. On l'apprécie surtout quand il est bien éclairé, et puis que le jeu des lumières et des ombres permet de bien découper ce que l'on voit dessus. Je suis quasiment certain que vous ne l'avez que très rarement vu, peut-être même jamais vu comme ça, mais regardez ce chef-d'œuvre autour du sarcophage avec toutes ces sculptures puissamment cherchées dans l'albâtre, et ici la partie qu'il surmonte, qui se termine en forme de pyramide, symbole de l'élévation vers les cieux de l'âme de notre évêque. Mais vraiment un très beau bâtiment d'architecture typiquement Renaissance. On retrouve ce type de modèle. Alors, on en trouve très très peu dans les Savoies, on en trouve un peu plus hors de la région Rhône-Alpes, mais c'est le seul monument funéraire typiquement Renaissance que l'on trouve dans notre ancienne région Rhône-Alpes. Le matériau, comme je vous l'ai dit, il vient des carrières de l'évêque. Il fait d'ailleurs mention dans son testament du 17 avril 1591, il nous dit qu'il a fait prélever sur place cette roche de qualité, et il écrit « Laquelle on fera apporter de la Perrière là où j'ai fait tirer celle dont est faite ma dite sépulture, en cas que ne se retrouve pas s'il y en avait du reste dans le palais. » Ce qui sous-entend qu'il devait y avoir un stock toujours au palais épiscopal de ce type de matériaux, et qu'en cas de manque, on allait chercher dans la Perrière du Mont-l'Évêque, qui appartenait aux évêques, ce matériau pour la sculpture. Autre point singulier, c'est qu'on retrouve des petits médaillons de marbre coloré qui décorent la base et les côtés de ce monument. Alors, ces marbres, ça, c'est le domaine que je connais le mieux, sont des marbres antiques de remploi qui proviennent, je dirais probablement, du milieu romain, parce qu'on n'en connaît aucun exemple d'utilisation en Savoie à l'époque gallo-romaine. Alors, il y a un matériau rouge, plus ici une brèche très caractéristique. Cette brèche, elle est appelée brèche de Théos, du lieu de son extraction. Il était appelé marmor africano, le marbre africain. Cet autre-là est aussi un marbre qui a la même provenance. Tous deux viennent tout simplement de Turquie, à proximité d'Izmir, où ces marbres, où les carrières étaient exploitées dès l'Antiquité romaine, à destination de la décoration marmoréenne de tout l'Empire romain de l'époque. Je n'en ai jamais vu en Savoie, si ce n'est ici, et c'est pour ça que je pense qu'il s'agit probablement d'un remploi de marbre que l'évêque a pu faire ramener ou ramener lui-même de Rome. Le monument de Pierre Lambert, on peut admirer ces deux personnages ici, magnifiquement sculptés dans l'albâtre de Maurienne. Ces deux personnages, dans l'iconographie de l'époque, alors remarquez, il y en a un ici qui a l'air d'implorer le pardon de ses maîtres, vu qu'il s'agit de deux esclaves. Et l'autre ici a vraiment une tête menaçante, il est presque effrayant et veut sembler faire peur aux personnes qui le regardent. Ils sont donc de chaque côté du monument et soutiennent la cuve, le sarcophage même. Ils sont en albâtre. Si l'on regarde les représentations de l'époque du Turc, on retrouve tout à fait une moustache fine qui coupe leur visage. Et puis, ils sont à moitié nus parce que ce sont des esclaves. Et surtout, ils ont une fonction particulière qui est de soutenir le sarcophage. Ce sont les esclaves oppressés par leur vainqueur et qui supportent ici, on peut y comprendre le message qu'ils supportent, la foi chrétienne et qu'ils représentent l'hérésie de l'époque sous la forme d'esclaves turcs. Alors, pourquoi ce rappel aux Turcs de l'époque. Je vous rappelle que l'oncle de Pierre Lambert le Jeune a été historien de Charles III de 1536 à 1559. Que se passe-t-il en 1543 ? C'est que François Ier, qui avait envahi le duché de Savoie et une bonne partie des territoires savoyards, s'était allié au Turc Barberousse pour venir combattre à ses côtés. Et de là est resté cet épisode bien connu de l'attaque navale de Nice en 1543 par le Turc Barberousse, qui d'ailleurs, c'est un échec d'ailleurs pour sa part. Pierre Lambert était à Nice à cette époque. Il a été le témoin direct de ces événements. 6 ans plus tard, son neveu, François, je vous ai dit que sur les 3 frères, un évêque de Caserte, un évêque d'Annecy, le troisième est évêque de Nice. Il est nommé en 1549. Ce qui explique aussi l'importance des liens de la famille entre le pouvoir de l'époque et puis toute l'étendue du territoire qui appartient au duc de Savoie. En 1571, la bataille de Lépante. La bataille de Lépante à laquelle participent un ou deux navires, je n'ai plus exactement le détail en tête, savoyards. Et c'est une flotte qui est menée par les Doria et qui va défaire la flotte ottomane en 1571. Et là, cet événement, c'est un grand événement pour la chrétienté. C'est le pape qui avait voulu que cette flotte soit mise en place pour aller combattre les hérétiques. Et cette victoire symbolique est la plus célèbre victoire navale que l'on trouve en Méditerranée, symbole donc de la force du catholicisme sur de la chrétienté, pardon, sur l'ennemi ottoman. Donc, rien finalement, quand on connaît ce contexte, C'est pas étonnant de voir ici des Turcs symbolisés, parce que la famille Lambert, c'est une époque qu'elle a bien connue, et on aime bien montrer son ennemi vaincu sous le visage d'un esclave supportant, c'est d'ailleurs la fonction des Telamon, Atlante et autres termes, c'est aussi le nom utilisé de l'époque, vaincu donc, et de les représenter ici, implorant la pitié. Autre point singulier, regardez, on retrouve dans leur coiffure des pampres, des pivoines. Le monument est réalisé en 1571, 20 ans avant la mort de l'évêque. 1573, voici ce que représente Archiboldo. Et ça m'a saisi quand j'ai regardé de près ces deux têtes d'Atlante avec leur coiffure, de penser à ce qui était réalisé par un peintre contemporain de l'époque, et on retrouve exactement en plus les mêmes fruits utilisés. Ça, ce sont les quatre saisons d'Archimboldo, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver représentés sur la base d'un visage humain, et l'on retrouve ces traits sur les deux prisonniers turcs Atlante du tombeau du monument de Pierre Lambert. Ce modèle de sculpture, Terme, Atlante, Télamon, Cariatide, suivant le sexe, on retrouve en 1571, la même année, une sculpture à Clermont-Ferrand qui ornait donc un palais de l'époque où on voit un terme ici aussi représenté avec une tête de Turc et des fruits et des légumes sur sa tête. On retrouve ici à Dole, deux années plus tard, vers 1573, le même type de sculpture, une cariatide, ici un visage féminin ou d'ange peut-être, portant un fruit décoré du même type de sculpture. Donc on est en pleine période de la Renaissance, on emprunte un langage nouveau et c'est la représentation de tout ce que l'on trouve ici sur le tombeau de ce Pierre Lambert le Jeune. Voilà, j'espère vous convaincre de retourner à la cathédrale, d'y re-retourner, et puis de regarder d'un œil différent ce tombeau, toute la cathédrale. On arrive, là pour ma part, j'arrive à la fin de ce diaporama. Quelle heure est-il, monsieur le Président ? C'est parfait. Eh bien alors, on va 5 minutes. Allez, 5 ou 10 minutes rapidement, j'avais prévu un petit bonus. Je savais qu'à Saint-Jean-de-Maurienne, on allait peut-être me faire un petit rappel et m'en redemander. Non, c'est un petit bonus que j'avais ajouté quand j'avais fait cette conférence sur la construction des cathédrales savoyardes aux amis du vieux Chambéry, parce que j'avais eu Monseigneur Ballot qui était venu assister à la conférence. Alors j'avais fait un petit plus pour évoquer ce que pourrait être une cathédrale bâtie au XXIe siècle. Alors c'est un projet qui a été réellement conçu par un jeune compagnon tailleur de pierre en 2016 qui a réalisé une maquette de ce que pourrait être une cathédrale au XXe siècle. 2000 heures de travail pour faire une reproduction à l'échelle qui soit transportable. C'est un article que j'ai tiré de la revue Pierre Actuelle de décembre 2016. Alors, elle est entièrement en bloc massif. Il a utilisé pour la représentation de sa maquette du marbre bleuté de Villette. Le marbre bleuté de Villette, c'est un marbre qui est extrait en Tarentaise, qui a une belle couleur gris-bleu. Il aurait prévu, au cas où ce chantier devienne un jour une réalité, de la réaliser dans ce type de morceau. Il a prévu un assemblage de blocs, un assemblage qui fait appel à la stéréotomie, c'est-à-dire l'art de couper les pierres, de façon à ce qu'elles s'assemblent parfaitement pour construire cette cathédrale, où l'on voit grossièrement le plan de la croix latine avec le transept, une flèche tout à fait contemporaine ici, pour arriver à une clé de voûte ici au sommet, une clé de voûte qui pèserait une dizaine de tonnes, qui viendrait bloquer l'ensemble du bâtiment. On voit les parallélépipèdes qui sont extraits ici, dans la carrière même, et qui auraient pu servir de matière première pour la construction de cette cathédrale du XXIe siècle. Ça aurait été, je ne dis pas un jeu d'enfant, mais pratiquement de la construire, parce que, comme un jeu de Lego, on l'assemble des blocs massifs, on fait des réservations pour toutes des réservations techniques pour l'électricité, l'écoulement des eaux, etc. Mais il y a cette possibilité, et c'est bien qu'un jeune qui a un jeune compagnon, tailleur de pierre en plus, qui avait une vingtaine d'années, ait fait ce type de projet de ce que pourrait être la cathédrale du XXIe siècle. Voilà. J'en termine donc avec cette conférence, cette communication sur les matériaux de la cathédrale de Saint-Jean de Maurienne. Je vous remercie de votre attention. C'est bon signe, j'ai vu personne s'endormir. Ce qui fait aussi plaisir, de temps en temps, je prends un petit peu de plaisir. Tiens, paf, un petit coup de laser, là, tu te réveilles maintenant. Non, ça n'a pas été le cas. Et puis, pas de téléphone pour être interrompu. Monsieur le Président, vous avez vraiment une association qui est remarquable. Et merci à vous d'être venu si présent.